Merci de m'avoir invité aussi en tant que collaborateur de l'IRDP, puisque vous l'avez entendu ce matin, l'IRDP a un accord de coopération avec l'INRP, et c'est une manière un peu de le concrétiser aussi. Alors je vais donc parler de l'éducation plurilinguisme, obstacle ou atout pour la langue de scolarisation, un peu dans la perspective de la Suisse, amener un éclairage un peu extérieur. Alors Daniel Coste a déjà dit pas mal de choses sur cette question, mais je crois que ça va bien se compléter, dans la mesure où il a donné plus les aspects européens, la perspective européenne, et philosophique je dirais, et je vais peut-être plus entrer dans des aspects didactiques, essayer de présenter quelques outils concrets qui permettent d'entrer dans cette problématique. Alors voilà le plan de mon exposé, très rapidement. Donc je vais d'abord un petit peu interroger cette question, ensuite me demander que faire. Nous verrons assez rapidement qu'il y a des conditions institutionnelles, et je m'attarderai alors très nettement plus longtemps sur les conditions didactiques, ce qui constitueront l'essentiel de mon intervention, et puis je finirai sur le rôle de l'enseignant, et surtout sur la notion d'outils et de formation, avant de conclure par quelques remarques. Premier point, où est le problème finalement? En effet, il suffit de remonter à Goethe, phrase bien connue, utilisée souvent dans ce genre d'exposé, mais qu'il est bon quand même de rappeler ici, qui nous dit que celui qui ne connaît pas de langues étrangères ne connaît pas la sienne propre. Donc voilà, l'éducation plurilinguiste ne peut être que bénéfique, d'autant plus que de nombreux résultats de recherche. J'ai repris ici une petite synthèse de Cummins, nous montre que le plurilinguisme est un atout. Le bilinguisme a une influence positive sur le développement langagier et éducationnel des enfants. Le niveau de développement de la langue maternelle est un indicateur du développement de la deuxième langue, etc., etc. Tous les indicateurs sont au bleu. Le bilinguisme, le plurilinguisme est un atout pour le développement langagier, y compris de la langue de scolarisation. Mais pourtant, évidemment, le plurilinguisme est également un obstacle, vous le savez bien, sinon nous ne serions pas ici. Un premier point que j'aimerais souligner, si les apprentissages ne sont pas coordonnés, c'est-à-dire s'ils sont conduits isolément les uns des autres, s'il n'est pas pris en compte le fait que les élèves ont d'autres compétences, etc., il s'avère que la compétence plurilingue, autrement dit, selon le Conseil de l'Europe, la compétence à gérer un répertoire plurilingue, pluriel, cette compétence cesse d'être un atout. On a beaucoup d'exemples en Suisse, par exemple, d'élèves suisses alémaniques venant en Suisse romande, maîtrisant évidemment le dialecte et l'allemand dans une large mesure, mais qui sont parfois moins bons que les élèves francophones en allemand, parce qu'ils ont des écarts grammaticaux, etc., liés à leur variété d'allemand. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Alors que vraisemblablement, ils parlent mieux l'allemand que le professeur. Hein. Le plurilinguisme comme obstacle, également, quand on pense aux enfants, évidemment, c'est aussi une des problématiques de cette journée. Ces compétences plurilingues des enfants, si on ne les entretient pas, elles risquent de se perdre, elles risquent de devenir négatives, de bloquer les enfants dans leurs apprentissages. Et comme Cummins le dit, quand l'école rejette la langue de l'enfant, elle rejette l'enfant. Alors, à nouveau, une répercussion, c'est que ces élèves-là ne bénéficient pas de leurs compétences plurilingues, ils ne sont pas en mesure de les activer, et donc elles sont perdues. Avec ce genre d'obstacle, on arrive à une situation que vous connaissez bien, et je me suis permis de renvoyer un document français que vous connaissez certainement, qui est le rapport Benisti, qui est quand même, la phrase là est extraordinaire, quoi. Le bilinguisme est un avantage pour un enfant, sauf lorsqu'il a des difficultés, oula, lorsqu'il a, oulala. Des difficultés, moi aussi, c'est mon bilinguisme suisse-français. Car alors, ça devient une complication supplémentaire. Il faut faire en sorte que l'enfant assimile le fond. Bon, vous connaissez tous ces développements, mais je crois qu'on est vraiment dans une caricature. Elle est quand même au cœur de la discussion, de la réflexion d'aujourd'hui. dans la mesure où, finalement, elle est encore une représentation relativement présente. Hein. Alors, on le sait, en plus, ça correspond à une certaine réalité dans les constats. Hein. En raison des obstacles que j'ai présentés, il suffit de rappeler l'enquête PISA, je ne vais pas développer, je crois qu'on n'a pas le temps ici, et je ne vais pas m'occuper trop de ces aspects contextuels, mais pour souligner l'importance de ces aspects contextuels, vous connaissez donc l'enquête PISA, qui est sur la question de la lecture, dit des choses sur la question du plurilinguisme et des enfants migrants, en l'occurrence, puisque la variable lieu de naissance est très distinctive et très, très discriminante. Hein, entre les autochtones, les premières générations et les allochtones, il y a de grandes différences qui, il faut le souligner tout de même, ne sont pas de même importance selon les pays. Ce qui est encourageant, avec un cas extrême qui est l'Irlande, où les enfants allochtones sont avantagés sur les enfants autochtones, mais c'est parce que c'est l'anglais, les allochtones. Hein. C'est un cas un peu particulier. La variable lieu de naissance et la variable langue parlée à la maison, j'ai pris deux indicateurs différents, un qui nous donne l'écart moyen, ici un indicateur de PISA qui nous dit que les élèves qui parlent pas la langue de l'école à la maison ont beaucoup plus de chances, de risques plutôt, je dirais, évidemment, de se trouver dans le quartile inférieur de performance en lecture. Hein. Bon, juste deux indicateurs pour rappeler que c'est évidemment présent. Dans l'horreur du rapport Benisti, il y a un constat qui est indiscutable, c'est qu'il y a des difficultés, il y a une difficulté qu'on ne peut que reconnaître. Donc, le plurilinguisme comme obstacle, ça existe. Et surtout, il faut le dire, comme composante de l'inéquité du système scolaire et de l'inégalité entre les élèves. Hein. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que la cause n'en est pas le plurilinguisme. Hein, évidemment, c'est ça qui est, je crois, le nœud du problème. C'est que c'est pas le plurilinguisme, mais voilà quelques facteurs sociaux et sociolinguistiques. Vous connaissez les notions de marché des langues. Évidemment qu'il est mieux, il est meilleur par rapport au système scolaire d'être bilingue anglais-français que swahili français ou même portugais-français, etc. Donc, il y a un marché des langues qu'on décrit Calvet ou Bourdieu ou d'autres. Il y a la reproduction sociale au sens de Bourdieu. Il y a les travaux de Lahir sur ce qu'il appelle la forme sociale scripturale scolaire, hein, qui montre bien que la question est sociale, sociologique, sociolinguistique avant d'être liée au plurilinguisme. Hein. Hein, c'est ça qui me paraît important à souligner ici. J'aimerais aussi souligner que Le plurilinguisme est un obstacle et surtout l'élément d'un gaspillage cognitif, comme je l'ai dit, quand on ne reconnaît pas les compétences des enfants, quand on perd ces compétences. Et là, j'aimerais en venir à des facteurs didactiques. C'est lié à l'absence de prise en compte des connaissances des élèves, à l'absence de synergie entre les enseignements et à des enseignements trop souvent incohérents. Et là, peut-être une citation d'un linguiste de chez nous, Anton Neff, qui disait à propos de l'enseignement de l'allemand en Suisse, au moment où avaient été introduits de nouveaux moyens d'enseignement, à l'avenir également, le principal artisan pour ériger des passerelles entre les terminologies françaises et allemandes restera malheureusement l'élève lui-même. Hein, c'est-à-dire que l'école ne s'occupe pas d'intégrer les didactiques, mais laisse ce soin à l'enfant, qui souvent n'est pas armé pour le faire. Et là, je me situe dans l'argumentaire de la journée que j'ai repris, qui me paraissait dire que cela j'ai mis en gras à certaines conditions, qui me paraît important. Le développement de compétences plurilingues serait en effet, à certaines conditions, de nature à favoriser les apprentissages, y compris celui de la langue de scolarisation. J'aime bien aussi formuler cela sur les termes de Cummins, qui élargit, si on veut, dans une perspective de la société, je dirais, et qui dit « Le défi pour les éducateurs et pour ceux qui définissent la politique est d'inventer une évolution de l'identité nationale où les droits de tous les citoyens, y compris les élèves des écoles, sont respectés. » Daniel Coss parlait du droit, hein, de droit, de questions de droit, et je crois que c'est important de le souligner ici. Le droit de la langue est un droit fondamental au même titre que le droit religieux ou que le droit, etc. Hein. où les ressources culturelles, linguistiques et économiques de la nation sont utilisées le mieux possible. Ça paraît important de souligner comment on peut réfléchir et essayer de renverser la perspective et d'envisager la question en termes d'atouts et non plus d'obstacles. Je renvoie, je ne vais pas développer ici par manque de temps, mais aux travaux par exemple en Suisse de François Grain, qui est un économiste, économie de la langue, hein, des rares économistes qui se préoccupent des questions de langue, et qui montre, non pas que les langues de l'immigration sont rentables, etc., c'est pas miraculeux, hein, attention, mais qu'il y a certains atouts, même dans les langues comme le turc, etc. En Suisse, il montre certains avantages que peut procurer la langue turque dans certaines conditions. À nouveau, je rajouterai cette précision. Alors, ces conditions, c'est d'abord des conditions institutionnelles. Il est très difficile de faire du plurilinguisme un atout si un certain nombre de conditions, de reconnaissance institutionnelle ne sont pas assurées. Et elles ne le sont pas actuellement, malgré certains efforts, malgré certaines avancées au niveau européen déjà, mais l'Europe n'a pas toujours un impact extrêmement fort sur les réalités nationales de l'école. Impact au niveau qui va des pratiques, des curricula, et aussi, un point qui me paraît crucial, la question de l'évaluation. Et là, on est encore très loin d'une situation où on évaluerait la compétence plurilingue d'un enfant migrant, par exemple, en tenant compte de ses compétences en langue première, dans sa langue première. Alors, pour les conditions institutionnelles, j'aimerais quand même montrer qu'en Suisse, de ce point de vue-là, et même si les problèmes restent, vous avez peut-être eu le temps de voir dans PISA que la Suisse n'est pas mieux que la France. Les élèves allochtones sont elles-mêmes pires, Elle est même plus basse. Non, mais au niveau des allochtones, ils sont encore plus défavorisés en Suisse dans leurs résultats qu'en France, par exemple. Mais il en reste pas moins qu'au niveau institutionnel, il y a un certain discours en Suisse depuis un certain nombre d'années qui, de ce point de vue-là, est assez cohérent, assez fort. Le problème en Suisse va être comment le mettre en pratique. J'y reviendrai par la suite. Mais au niveau, partons au niveau donc de la politique. Donc au niveau des intentions générales, je fais référence ici à une déclaration de ce qu'on appelle la CIIP. Je n'ai pas développé parce que j'aurais plus de place sur ma diapositive. C'est la conférence intercantonale de l'instruction publique. Je ne vais pas allonger sur ce point, mais vous savez qu'en Suisse, il n'y a pas un ministère de l'éducation, mais il y a plusieurs cantons qui chacun leur politique éducative, 26 cantons, et puis qui se réunissent par conférence régionale. Et ici, on est dans la conférence romande, si vous voulez, qui associe également le Tessin italophone, et qui essaye de définir une politique plus convergente, plus harmonisée entre les cantons romands. Voilà, je n'allonge pas sur ce point. Mais donc, cette conférence a édicté des recommandations, une déclaration donc assez forte, qui fait vraiment loi, office de loi en Suisse romande, pour la politique scolaire et des langues. Et cette déclaration va assez loin. Donc, elle souligne dans ce premier point la nécessité d'aller vers un enseignement plurilingue, vers le plurilinguisme, et que les élèves, donc, en plus du français langue locale, pas langue maternelle, petit changement aussi à souligner, les élèves, donc, bénéficient d'enseignement, et puis il y a des contacts avec d'autres langues, etc. Si on va à d'autres articles sur la place des langues dans le curriculum, donc à nouveau, j'aimerais souligner l'enseignement du français, langue véhiculaire et de culture du lieu, ainsi que langue d'intégration. Vous voyez, c'est des phrases qui, malgré tout, ont un certain poids. Je suis membre de l'IRDF, probablement d'autres parmi vous aussi. Il y a eu des querelles assez violentes au sein de l'IRDF lorsque quelques pays étrangers, le Québec, la Belgique et la Suisse, ont voulu supprimer la langue maternelle de l'intitulé de l'IRDF. Il y a eu quelques résistances, il faut bien le dire, françaises. Donc, dans le français, mais j'aimerais souligner donc ce point, ce n'est plus la langue maternelle, là, il y a un pas qui me paraît important, et d'autre part, quand même, le français reste au cœur de la problématique scolaire en tant que langue de scolarisation. Hein. Daniel Coste l'a souligné encore, dans le schéma qu'il a montré, la langue de scolarisation est au centre. Hein. Je crois que c'est un principe de réalité, ne serait-ce que cela, hein. Mais il est dit aussi que les langues de la migration ont également leur place, etc. Hein. Et je crois que c'est important aussi. Et puis au niveau des relations entre les apprentissages linguistiques, dans un texte, une déclaration des ministres de l'éducation, si vous voulez, il est quand même dit que tout doit être envisagé dans une complémentarité, dans une perspective intégrée. Voilà, ça répète cette notion d'intégration. Je vous laisse en prendre connaissance. Voilà donc pour les conditions institutionnelles. Cadre. Donc, voyez, en Suisse, on a des textes institutionnels. On aura aussi peut parler du fameux Gesamtsprachenkonzept, formulé par un groupe d'experts sous la conduite du professeur Ludig, vous connaissez certainement, qui là aussi avait édicté des principes très forts pour favoriser une politique du plurilinguisme, qui allait dans le même sens tout à fait. Maintenant, les principes institutionnels sont importants, mais ne suffisent pas. Il faut, bien sûr, derrière... excusez-moi. Oui, j'ai oublié cela. Je passe, c'est trop tard. Et j'en viens aux conditions didactiques, qui, évidemment, sont, pour moi, au cœur du problème. Hein, je me définirais dans cette réflexion plutôt comme essayant d'apporter un apport didactique. Hein. La question va être de savoir comment on fait. Qu'est-ce qu'on offre pour aller vers ce plurilinguisme? Et j'aimerais aussi réagir à une discussion qui a eu lieu ce matin, jusqu'à 35 à peu près.
Voilà, exactement. Il
faut que je ne traîne pas.
12 minutes.
Donc, bien sûr, comme l'a dit Francis Gouillet, il ne faut pas oublier la formation linguistique, donc l'apprentissage des langues. Ici, je vais plutôt me situer dans la perspective éducation linguistique, mais je l'ai précisé déjà ce matin en intervenant, mais il y a vraiment les deux aspects qui doivent être pris en compte. Hein. J'y reviendrai encore par la suite. Mais dans ces conditions didactiques, il va falloir travailler à la fois au niveau des savoir-être, et cela signifie construire une posture face aux langues, changer les attitudes envers le langage et les langues, éveiller la curiosité, l'intérêt envers les langues. On oublie trop souvent l'intérêt d'ailleurs. Hein. On réduit à des contraintes sociales, etc. Mais il faut aussi intéresser les élèves, hein, leur donner envie. Il faut travailler au niveau des savoir-faire. Alors comme je l'ai dit avant, il faut d'abord permettre l'activation des capacités des élèves. Hein. Ne pas enfouir les capacités des élèves dans leur première langue, par exemple. Vraiment, leur permettre de les activer, qu'elles soient là dans leurs réflexions, etc. À l'encontre d'un certain structuralisme, hein, vous le savez bien, qui voulait empêcher toute interférence de la langue première. Hein. Il faut aussi développer des capacités d'écoute, d'observation, d'analyse. Au niveau des savoirs, troisième point d'intervention, il faut des savoirs. On n'est plus seulement dans une didactique des compétences. Il faut des savoirs derrière ces compétences, des savoirs qui fournissent la base pour le travail sur les savoir-faire et sur les savoir-être, et qui constituent aussi la base pour l'élaboration d'une culture commune. Si je prends le cas du français comme langue de scolarisation, c'est une notion qui peut être construite avec les élèves. Elle n'est pas donnée d'avance. Il est important de construire cette notion. Qu'est-ce que la langue commune? Qu'est-ce que la langue de scolarisation? Il est possible d'avoir des réflexions avec les élèves sur ce point. Alors, mon hypothèse didactique, enfin, mon hypothèse est très prétentieuse, l'hypothèse que développe un certain nombre de didacticiens aujourd'hui, c'est que un certain nombre d'approches qu'on appelle les approches plurielles, prenant en compte la pluralité des langues, des codes, des modes de communication, permettent de remplir ces conditions didactiques, donc de travailler sur les savoir-être, sur les savoir-faire et sur les savoirs. Dans cette perspective d'éducation plurilingue, qui va devoir se situer par rapport à la formation plurilingue. Alors qu'est-ce qu'on appelle les approches plurielles ? Les approches plurielles des langues et des cultures sont des approches qui travaillent, qui mettent en œuvre des activités impliquant à la fois plusieurs langues, c'est-à-dire en tout cas plus d'une, hein, plusieurs variétés linguistiques et culturelles, puisque la variation, le pluriel existe déjà à l'intérieur même du français. Alors, ce qui est important, c'est que ces approches plurielles s'opposent aux approches dites singulières, qui, elles, travaillent spécifiquement dans une langue. Hein? Alors, on aura besoin des deux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus d'approches singulières. C'est une manière de me situer très fortement par rapport à cette réflexion. Mais il faut des approches singulières, mais il faut savoir quand il faut l'une ou quand il faut l'autre. Il faut, si possible, savoir à peu près ce qu'on fait. Alors, ces approches plurielles, aujourd'hui, c'est bien sûr l'éveil aux langues, c'est l'intercompréhension entre langues voisines, c'est la didactique intégrée, ce sont toutes les approches interculturelles, mais qui mériteraient un très sérieux travail, d'après moi, pour clarifier un petit peu ce dont il est question. Parce que le culturel ne fonctionne pas comme le linguistique, juste une petite différence. Dans le linguistique, il est évident que mieux on parle, mieux on s'assimile, mieux on est dans la langue de l'autre, mieux c'est. C'est pas vrai du tout de la culture. On veut pas toujours être comme la culture de l'autre. On veut peut-être la comprendre, mais on veut pas nécessairement s'identifier à la culture de l'autre. Vous voyez à quoi je fais allusion. Il y aurait d'autres approches. Pour le moment, si on prend le CARAP, on se restreint à ces quatre approches, mais je pense qu'il faudrait élargir, réfléchir à la traduction, la place de la traduction là-dedans, réfléchir à la place de l'enseignement bilingue, enseignement intégré langue discipline, Émile, etc., hein, toutes ces approches. Également réfléchir à toutes les approches exolingues qu'on a travaillées par le passé et qui mériteraient aussi d'entrer probablement ici, à condition d'être didactisées. Donc nous allons ainsi vers une pédagogie mieux intégrée, et vous voyez que ce n'est pas si nouveau, puisque je renvoie ici à Roulet, il y a 30 ans de cela. Hein. Je vais donc prendre maintenant quelques exemples d'activités qui montrent comment le travail avec la pluralité des langues, donc dans le cadre d'approches plurielles, pourrait être un atout pour la langue de scolarisation. Donc je restreins énormément, ici il y a plein d'autres activités plurielles, hein, mais ici je me restreins des activités dont je vais essayer de montrer uniquement un aspect, c'est-à-dire c'est l'aspect qui pourrait être bénéfique, qui s'inscrit dans la problématique de la langue de scolarisation. Alors la première s'appelle Bonbon, Yo-Yo et compagnie. C'est une activité pour de très jeunes élèves, première année primaire, je dirais, parce qu'il faut quand même avoir un accès, donc 6 ans, un accès au code écrit. Et cette activité a pour visée principale de construire ce qu'on pourrait appeler une posture grammaticale, une posture réflexive sur la langue. J'ai parlé, hein, dans les savoir-être, de posture. On considère trop souvent qu'il est évident de travailler la langue. Mais pour beaucoup d'élèves, et là je renvoie à l'AIR, c'est loin d'être une évidence. Hein, c'est, je dirais, pour moi, le cœur des travaux de l'AIR, c'est de montrer que le rapport au langage est tel qu'il est problématique pour un certain nombre d'élèves. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir ce rapport distancié à la langue. Ce rapport fait de curiosité, mais de non-investissement. J'aime aussi beaucoup ce que disait le grand pédagogue de Lyon, qui était directeur de l'INRP,
Mérieux,
qui disait, j'aimais beaucoup cette idée-là. On reproche souvent aux élèves en difficulté de ne pas assez investir dans l'école, mais souvent, en fait, le problème, c'est qu'ils investissent trop dans l'école. Hein, c'est un peu le même problème. Donc, pour créer cette posture qui est très particulière, j'aime bien la comparer. Travailler la langue, c'est un petit peu comme, je compare ça à une fenêtre. C'est comme si, au lieu de regarder le paysage magnifique de ce jardin sous la pluie, on se mettait à regarder la vitre. C'est ça, finalement. Et c'est pas tout à fait naturel, hein. Voilà. Alors, cette activité, qui part de la pluralité des langues, vous voyez bien qu'on travaille avec plusieurs langues, et je dirais surtout plusieurs systèmes d'écriture ici, consiste simplement à prendre conscience, pour les élèves très jeunes, c'est de la grammaire, hein, qu'il y a un certain nombre de mots en français qui sont faits par répétition de la même syllabe, du type bébé ou coucou. Et que ce phénomène existe également en italien avec coco et titi, il existe également au malayalam, mais je vous épargnerai ma prononciation du malayalam, il y a évidemment d'autres corpus pour d'autres groupes, parce que les élèves travaillent en groupe, ils vont découvrir, ils vont rassembler ainsi ces mots, on va mettre ça en commun par la suite, ils se rendent compte, vous voyez, on fait de la grammaire, c'est une toute petite activité de grammaire. L'apport n'est pas extraordinaire, mais c'est une manière de prendre en compte la diversité des langues. Et peut-être que dans la classe, des élèves d'autres langues vont enfin pouvoir activer leurs propres compétences et dire « Dans ma langue aussi, on dit papa, on dit etc. » Puis vous savez que ces termes hypocoristiques sont relativement universels selon Brown et d'autres. Hein. Évidemment, il est important, si on est dans une perspective didactique, d'avoir après une sorte de, je ne sais pas si vous avez peut-être de la peine à lire, là c'est un peu petit, j'ai malheureusement pris la page entière, mais de faire la synthèse, d'institutionnaliser ce qu'on a observé. Hein. Donc, c'est de remarquer qu'il y a ces mots à redoublement syllabique n'existent pas seulement en français, mais ils existent en français, etc. Donc vous voyez, ce va-et-vient entre les langues, mais qui nous centre quand même sur le français. Un deuxième exemple, une activité qui s'appelle, je ne sais plus comment, les animaux.
Les animaux en
voilà, il y en a d'autres qui connaissent. Merci. Des animaux en nombre qui consistent à partir d'autres langues pour étudier le pluriel. Donc vous voyez, si on part d'un memory, d'un memory, on reconnaît, il y a du turc, il y a de l'indonésien, il y a du quechua, etc. Le but de l'espéranto, le but au bout du compte, c'est de voir que le marquage du pluriel se fait partout, on le fait par curiosité, parce que c'est très amusant aussi de voir que dans certaines langues, on dit une grenouille c'est katak, mais plusieurs grenouilles c'est katak, hein, etc. Vous connaissez cela probablement. Donc on éveille la curiosité, mais on revient au français, où le problème du français, c'est évidemment de prendre conscience que le pluriel, il faut le marquer, mais souvent, il ne s'entend pas. Donc vous voyez qu'on fait un détour par d'autres langues, par la pluralité, mais le français est toujours présent. Il y a une réflexion sur une prise de conscience de l'importance du pluriel et du marquage oral-écrit. Pour ce marquage oral-écrit, on va aussi aller après, par la suite, faire des activités en espagnol, en italien, où on voit que là, on repère tout de suite le pluriel. Je passe, j'ai pas le temps. Ce qu'il est important de souligner, c'est qu'il y a un certain nombre d'apprentissages aussi qui n'ont pas besoin de passer par le français, mais qui peuvent passer par à peu près n'importe quelle langue. C'est le cas dans ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance générique. Daniel a également parlé ce matin des genres, comment entrer dans les pratiques réelles des locuteurs. Vous savez qu'en Suisse, mais aussi dans le monde francophone, je dirais, la didactique du français s'ancre beaucoup dans les textes aujourd'hui et dans les genres textuels. Or, la reconnaissance des genres est quelque chose qui transcende largement les frontières nationales, même s'il y a des différences en genre, comme Himes, entre autres, l'a bien montré. Mais on peut faire une activité très intéressante de repérage. Vous voyez, le téléphone officiel, on a un mode d'emploi en français, ça paraît tout à fait évident, mais on peut tout à fait aller le voir après dans d'autres langues, et vous voyez que ça devient tout à fait plus... Ça devient bien plus intéressant de repérer qu'on peut faire du travail d'observation sur comment est rédigé un mode d'emploi. Et donc, on peut faire une approche d'un genre à travers la pluralité des langues. J'aimerais finir sur une dernière activité. Ouais, j'ai encore 4 minutes.
À peine.
Bon, je passe très vite parce que j'aimerais pas laisser passer celle-ci. Parce qu'elle met peut-être le mieux en évidence un point très particulier, mais où un certain plurilinguisme peut devenir un atout considérable. Cette activité, j'écoutais une fois la radio, et un intellectuel italien, apparemment assez connu puisqu'il a été interviewé, mais dont j'ai oublié le nom, racontait qu'il avait eu beaucoup de peine à entrer dans le français, dans l'écriture, dans l'orthographe du français, jusqu'au jour où il s'est rendu compte que finalement l'italien lui était utile. Et c'est ça l'idée qui est derrière cette activité, c'est de se dire, pour les enfants de langue romane, Leur langue première est un atout considérable pour l'orthographe du français. Alors, c'est pas tous les élèves, hein. Mais on peut aller chercher un peu chez chacun ce qui pourrait être utile. Et là, c'est le cas des langues romanes, puisque pour des mots comme grand, pour savoir si c'est EN ou AN, par exemple, il leur suffit de retourner à leur langue d'origine. Hein? Vous voyez, là, il y a un ensemble de stratégies qu'on peut développer où le plurilinguisme peut, à l'évidence, devenir un atout. Alors évidemment, je n'ai pas le temps ici d'entrer dans la didactique. Il y a toute une entrée didactique dans l'activité pour amener à cela. Hein? Je passe. Et voilà, donc j'ai présenté quelques outils didactiques de manière générale. Il y a un troisième ingrédient, c'est évidemment le rôle de l'enseignant. Et là encore, j'aimerais renvoyer au texte, à l'argumentaire de la journée, qui dit que faire du plurilinguisme un atout nécessite que l'enseignant, un autre regard de l'enseignant sur les compétences de ses élèves. Hein. On l'a bien vu à travers, je crois, ses activités. Mais pour moi, ce qui est surtout important, la conséquence de cela, c'est de développer des outils pour cela, pour aider l'enseignant, en quelque sorte, à développer ce nouveau regard. Et je crois que c'est le point crucial ici. On manque actuellement d'outils. Alors, les activités que j'ai présentées, bon, sont issues des moyens EOL qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, vous l'avez montré, qu'on a produit en Suisse, hein, qui sont diffusés dans toutes les écoles primaires, hein, donc pas au secondaire, deux volumes, plus des documents audio, qui implique 80 langues. Donc là, il y a un outil concret. En France, il y a les langues du monde au quotidien, mais aussi Comparant nos langues, de Nathalie Auger. Il y a aussi les systèmes d'écriture, un savoir sur le monde, un savoir sur la langue, qui permettent ce travail. Il y a tous les travaux de Hawkins. Il existe un certain nombre de choses, mais on manque encore quand même considérablement d'outils didactiques. Et en particulier, je vois, on a choisi des nouveaux moyens de français qu'on a choisis en France pour la Suisse romande, l'atelier du langage, livre unique, etc., que vous connaissez certainement. Mais ces livres n'ont aucune prise en compte d'un quelconque plurilinguisme. Rien du tout. Hein. Là, on manque totalement d'outils. Alors, il y a une exception en Suisse, c'est dans le projet Passepartout qui est développé par les Suisses alémaniques, où ils essayent de faire des moyens d'enseignement du français et des langues qui impliquent vraiment déjà la pluralité. Alors, à nouveau, ça repose toute la question de la dialectique entre transversal et spécifique, mais là, il y a vraiment une volonté de prise en compte. L'autre outil, à part les moyens d'enseignement, c'est un cadre de référence. Alors là, c'est ma petite minute de publicité, évidemment. Non, mais on travaille actuellement au cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures, le CARAP, dans le cadre du Conseil de l'Europe, autour de Michel Candelier et de différents pays. Alors, quel est le projet ici, à nouveau, en quoi c'est pertinent ici? C'est de fournir un cadre de référence qui permet à l'enseignant de savoir ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qui est en jeu dans ce qu'il travaille. Donc, ce cadre de référence inclut un nombre important, hein, trop important à mon goût pour le moment, mais de descripteurs de ressources de ces compétences plurilingues. Qu'est-ce qui est en jeu? Ben, par exemple, j'ai parlé de savoir-faire, savoir observer, analyser les sons dans des langues peu connues, savoir écouter attentivement de manière ciblée des productions dans différentes langues, savoir isoler les sons, etc. Tout ça, c'est des apprentissages transversaux, bien sûr, qui vont être utiles partout. Hein? Alors maintenant, où on en est dans le CARAP, ça c'est peut-être juste pour situer, parce que bon, c'est bien joli, un cadre de référence, mais qui va le consulter vraiment, concrètement? Alors on essaye d'aller vers quelque chose de plus opératoire. Alors ce plus opératoire, c'est tout d'abord présenter autrement ce cadre de référence, mais surtout, pour le moment c'est pas actif, mais derrière ce document, il y aura des activités, une banque de matériaux didactiques qui permettent de travailler ces ressources. Vous voyez bien que c'est là le cœur du problème, c'est, comme je disais, de fournir non seulement de lister des ressources, mais de fournir des matériaux qui permettent de les travailler. Hein? Et donc, on est en train actuellement de constituer cette banque de matériaux didactiques. On recueille dans 7 ou 8 pays des activités qu'on essaye de mettre en ligne, qu'on essaye de formater d'une certaine manière pour les mettre en ligne, tout en les reliant aux ressources qui sont listées dans le cadre de référence. De même, nous travaillons un kit de formation, c'est-à-dire tout un matériel de formation. Il ne s'agit pas de lire, ici j'ai juste mis la première page de ce kit qui est en construction. On se retrouve jeudi pour avancer dans ce domaine-là. Un kit de formation, c'est-à-dire comment travailler avec un document de ce type, comment travailler dans une perspective plurilingue avec des approches plurielles. Alors pour moi, le nœud du problème ici, je vais oublier mes derniers diapositives, parce que j'ai pas le temps, mais je conclurai là-dessus. Le nœud du problème, c'est de bien poser le problème. C'est-à-dire face à un problème d'apprentissage, quel qu'il soit, c'est d'apprendre à l'analyser et à voir si ce problème relève plutôt d'une approche spécifique, singulière, ou plutôt d'une approche plurielle. Alors c'est pas évident, la réponse n'est pas tout à fait simple. On peut imaginer différents problèmes. Il y a des cas, un certain nombre de choses comme la conjugaison, je pense que ça ne sert à rien de faire un détour par 14 langues pour travailler la conjugaison. Hein. Il faut un peu d'exercisation, etc. Ça peut être peut-être même parfois un peu rébarbatif aussi. Mais en fait, il y a de l'exercice et on n'y échappera pas. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas essayer de détourner le problème. Il y a d'autres problèmes, par exemple, imaginons un élève qui a des problèmes à entendre, un élève nouvellement arrivé dans la classe qui a de la difficulté à entendre certains sons. On, un, par exemple. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire, mais écoute bien, etc., etc. Il va se braquer complètement contre le français, parce qu'il n'entendra toujours pas mieux, etc. Il va avoir des mauvaises notes, et tout les... L'idée, là, d'une approche plurielle, ce serait de faire un détour par d'autres langues, et impliquer tous les élèves pour faire cet exercice de décentration qui consiste, en termes de savoir-faire, à accepter que les univers sonores ne sont pas les mêmes dans toutes les langues, ce qui est déjà un effort considérable. Il faut déjà accepter que les sons ne sont pas les mêmes. Qui s'est jamais dit ici, mais pourquoi les Allemands ne prononcent pas comme nous genre de choses. Hein, chacun met ça dans le contexte de ses propres apprentissages. Donc il y a un terme de savoir-être. En termes de savoir-faire, il faut apprendre à écouter. Et puis en termes de savoir que les univers sonores sont différents, fonde, voyez, ce travail, ce que je disais au début. Donc voyez, là le détour par d'autres langues, d'aller écouter des pères minimales en espagnol ou en chinois ou en indonésien, peut être utile pour débloquer quelque chose. Et en plus, le faire avec tous les élèves permet de ne pas stigmatiser l'élève en difficulté et d'avoir un apport pour l'ensemble des élèves. Vous voyez, c'est un exemple. Donc c'est une manière de poser les problèmes. Alors l'enseignant ne peut pas chaque fois faire un détour par 14 langues, sinon il sera au deuxième point de son programme en 20 points après une année. Mais à certains moments, il vaut la peine de faire ses arrêts, d'ouvrir. Et c'est bien, et là je rejoins en conclusion totalement ce que disait Lucie, c'est-à-dire le nœud du problème. C'est bien, il y a des enseignements de langue qui ont des parts spécifiques et des parts transversales. Il y a de la formation linguistique, il y a de l'éducation au plurilinguisme. Mais il y a surtout un traitement plurilingue dans les activités. Et c'est ça qui me paraît le cœur du problème. Pourquoi un enseignement de français, même quand il fait du français, ne prendrait pas de temps en temps un document dans une autre langue qu'on peut aborder par l'intercompréhension de langue voisine ou qu'on peut aborder parce qu'on est en train d'étudier l'anglais en se basant sur des connaissances même intermédiaires, même partielles en anglais, etc. Et puis se débrouiller, et puis après on revient en français. Si on travaille le débat en termes de genre, et qu'on travaille sur la féminisation, on sait que ce thème n'est pas très développé en France, et bien on va aller chercher des termes, des textes, c'était une petite poète, on va aller chercher des textes en allemand ou en anglais, où c'est beaucoup plus développé, et ça va nous être utile. Et voilà, je termine, j'ai débordé, et je vous remercie.